Vous écoutez D'ici et d'ailleurs, Histoire de musiciens de Touraine, émission radiophonique collaborative créée par les étudiants du parcours musicologie à l'Université François Rabelais de Tours. Dirigée par Talia Bachir-Loupuit et Emeline Lechaud et avec l'assistance de Gilles Horry, ce projet a pour objectif de vous faire découvrir des portraits de musiciens d'Indre-et-Loire représentant un ailleurs. Vous êtes bien sur la fréquence 99.5, Radio Campus Tours.
Din tak din, tir tak din agat din din tak din, tak din agat din din tak din, tak din agat din din tak din, tir da din tak din, tak din tak din tak din tak din tak din.
Aujourd'hui, dans cette émission, c'est le Rajasthan qui s'habite en France à travers les portraits de quatre frères bien connus du public tourangeau. Ils sont issus d'une caste de musiciens et perpétuent une tradition familiale depuis 7 générations. L'extrait sonore que vous entendez est tiré de la chaîne YouTube du Amrat Hussain Brothers Trio, un groupe formé par Amrat Hussain qui s'est fait rapidement une très solide réputation dans les réseaux internationaux de la world music. Déclinée en plusieurs thématiques, cette chronique s'attachera à montrer comment la musique du Rajasthan s'est frayé un chemin jusqu'à Tours et comment elle est aujourd'hui reconnue comme une richesse culturelle à un niveau à la fois local et international. Les contes des mille et une nuits, les somptueux palais, les Maharajas ou encore le Taj Mahal sont des joyaux culturels et architecturaux ancrés dans l'imaginaire collectif à la simple évocation du Rajasthan. Pourtant, il est des richesses encore méconnues, comme la musique soufie et sa montre indienne. En Inde, les classes sociales sont régies par un système de castes duquel sont issus nos musiciens du nom d'Amrat Hussain, Tipu Khan, Rai Bharti et Shanze Khan. Leur famille avait pour rôle de jouer pour les hauts dignitaires politiques. Héritiers d'un legs masculin prestigieux, ils ont débuté leur apprentissage musical très tôt, dès leur plus jeune âge, et selon leur propre volonté. Leurs aînés leur ont laissé le choix. Ils ne les ont pas contraints de perpétuer cette tradition.
Bonjour, je m'appelle Tipu Khan. Je suis musicien indien. Une fois, j'ai vu mon père qui est en train de jouer avec les musiciens. Et puis, à un moment, j'ai pensé, oh, c'est bel instrument, je vais apprendre. Et puis, j'ai demandé à mon grand-père et mon père. Et moi, j'ai dit, oui, moi, je veux bien jouer tabla comme toi, tout ça. Il m'a dit, comment dire, réfléchis bien et reviens quand tu veux. Et le lendemain, j'ai pensé, non, je vais apprendre tabla aussi.
Je cite, nous sommes issus d'une caste de musiciens. Notre grand-père, notre père sont musiciens. Jouer la musique classique indienne est notre fonction sociale. Dans notre famille, les jouets sont les instruments de musique. On les dépose sur un tapis et on laisse l'enfant jouer avec eux. On l'observe pour voir quel instrument l'attire, celui pour lequel il semble avoir le plus de facilité. Le père joue avec l'enfant qu'il imite. Au fur et à mesure, le jeu se complexifie. L'apprentissage se fait par imitation et de façon orale. Ces paroles, relevées par Anna Lumeau, étudiante en master musicologie, et provenant d'une interview donnée par Amrat Hussain pour JM France, sont révélatrices. Un parallèle est alors envisageable avec la sociologie de l'enfance, et notamment avec la notion de mémétisme dans l'apprentissage. L'enfant, qui voit son père et son grand-père jouer de la musique, cherche à faire la même chose qu'eux, à les imiter. On peut aussi émettre l'hypothèse selon laquelle ce mimétisme se serait produit par rapport aux autres frères ou à l'entourage de la famille qui pratiquait déjà un instrument. Aussi, les récits de ces frères témoignent du rapport qu'entretient la musique avec la spiritualité. L'Inde est un pays partagé entre plusieurs religions, dont l'hindouisme représente le culte majoritaire, puis en seconde position, l'islam. De la même manière que la religion façonne la vie, la musique fait partie intégrale de la vie quotidienne et rituelle. Ces croyances entrent directement en résonance avec la musique.
Et à partir de ce jour-là, il m'a réveillé autour de 4h du matin. Et il m'a dit, ça c'est mon mode de travail. Pourquoi ? C'est par contre, dans la méthode, c'est une question de spirituel. Vous connaissez ? qui pour les prières, pour les yogas, pour les méditations, tout ça, ça compte une positive énergie, une comme à prier et prière. Et en Inde, en musique, c'est pour nous, c'est un hyper fort lien du spirituel, une sorte de quand on joue les musiques, on pense toujours notre maître.
Quand j'ai commencé, mon père il m'a demandé, quand j'étais 5 ans, il a dit, Sandy, est-ce que tu veux apprendre la musique indienne? Moi j'ai dit oui. Après, il m'a posé la question, ok, réfléchis bien, je donne une journée. Deuxième jour, il m'a demandé, est-ce que tu veux apprendre la musique indienne? J'ai dit oui. Et là, il m'a réveillé 12 heures du matin. 12 heures du matin, il m'a réveillé pour apprendre la musique indienne. Et comme ça il m'a travaillé 12 heures du matin, pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec lui.
Ces portraits sonores révèlent également la manière dont ces quatre musiciens ont appris à jouer de leur instrument. En effet, lorsque Amrath et son frère Tipu présentent les tablas, un instrument phare de l'Inde, ils procèdent de la même manière que leur père et leur grand-père leur ont enseigné. Mais je pense qu'il faudrait leur laisser la parole. Ils sont les plus à même de parler de leur instrument. Je vous propose de les écouter.
Je m'appelle Amrath Hussain. Et je suis un musicien indien et je viens d'une ville qui s'appelle Jaipur. Mon instrument, il s'appelle tabla. C'est un instrument qui vient du nord de l'Inde. C'est du côté percussion. C'est un instrument de percussion. Construit avec une partie, on appelle ça baryan. Ça veut dire le gauchier. Celui qui est plus le basse. C'est basse. Et après, le dayan, ça veut dire le droitier, qui est un peu plus aigu.
Cette démonstration musicale illustre la tradition orale, laquelle se situe à l'opposé de la tradition écrite, propre à la musique savante occidentale. Ici, nul besoin de partition. Tout se fait par le biais de l'oralité entre le maître et l'élève. Plus généralement, c'est le cas pour les autres musiques traditionnelles et folkloriques du monde. Les rythmes, les ragas, sont le fruit du bouche à oreille. D'abord en chantant, puis en les appliquant directement sur l'instrument. Et c'est ce que fait exactement Amrath lorsqu'il chante sur des onomatopées, puis joue sur les tablas afin de montrer aux étudiants qu'il est possible d'obtenir de différents timbres et différentes sonorités.
Pour le tabla, il y a un langage. Qui avec ça on peut faire même comme une sorte de récital. Et on peut dire, c'est comme une sorte d'onomatopée, c'est les frappes d'instruments, mais ce n'est pas que les frappes des instruments. Avec toutes les frappes, on peut même construire, ils ont construit des compositions, les compositions, et avec ça, on peut faire un récital des tablas. Et par exemple, si je vais dire na, ça va sonner la même chose. Et partir de moment sur le grave, si je dis gay. Et si je veux dire ensemble na et gay, ça va faire da. Ensemble, le frappe, ça va faire. Donc vous voyez, na, gay, ensemble, ça fait da. Et après, on a ti, tire. Tire, kite. Dagena, datrake, da. Ça devient encore plus complexe parce que c'est comme une langue. Datraka dhita tagina tina gina dha. Dagina dhati dagina dha. Dhati dagina dhati dagina dha. Dagina gina kadin dha. Dagina gichika kadin dha. Dadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrakadrak
Cela nous amène aussi à la question de l'enseignement de ce type de musique traditionnelle en France, et notamment pour les tablas. À ce propos, Anaëlle Humeau, qui a assisté le 1er décembre 2019 à un concert donné par le Amrath Hussein Brothers Trio, au temps et machine de jouer des tours, livre dans son compte rendu un témoignage assez significatif. Dès son arrivée sur les lieux, elle remarque qu'Amrath l'informe du fait qu'il donne des cours de musique indienne à Tours. Promotion que son frère, Chanzé, fait également lorsqu'il la rencontre. En dépit d'une forte volonté d'enseigner les rouages de cet instrument, Les quatre frères font part de leur déception sur le fait qu'il n'y ait pas de spécialiste pouvant transmettre cette flamme, car en effet, rares sont les établissements qui dispensent de tels cours en France. Le récit de l'étudiante atteste à la fois de la difficulté pour une tradition musicale étrangère de s'implanter sur un territoire local, mais également du fait d'une possible concurrence qui s'instaure entre les quatre frères, formant tous des élèves à Tours.
En France, il n'y a pas vraiment, vraiment beaucoup... Déjà, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de très, très bons joueurs de tabla. Il y en a quelques-uns. Après, l'enseignement, c'est souvent... Il n'y a pas dans, le, dans les... Enfin, il y a certaines écoles, peut-être écoles à Paris, il y a un conservatoire de Paris. Il y a un petit classe comme le classe de la musique du monde. Il n'y a pas vraiment particulièrement pour tabla. Et dans la musique du monde, le prof, il va apprendre un peu de tabla ou peut-être dire un peu de sitar ou musique africaine ou d'autres musiques. Donc, il n'y a vraiment pas une classe particulièrement ou une poste que pour la musique indienne ou particulièrement pour le tabla.
Si cette volonté de transmission est perceptible au travers de la promotion qu'ils font pour leurs cours, elle se retrouve également dans leurs concerts qui deviennent effectivement des lieux de partage entre les musiciens et le public. Les quatre frères font découvrir leur patrimoine culturel à des auditeurs qui, parfois, ignorent tout de ces pratiques musicales. Ce souhait de transmission, de partage, ainsi que leur propre désir de découvrir les richesses du monde, les ont conduits à quitter le Rajasthan pour voyager à travers les territoires. C'est par l'île de Beauté que débute l'aventure occidentale et la quête de partage du joueur de tabla Rai Bharti. Cette arrivée est notamment marquée par le choc des cultures, le décalage entre la France et l'Inde. À l'époque, tout est prétexte d'émerveillement pour ce jeune musicien. Imaginez-vous à sa place arrivant en Inde. Quelles sont les premières choses que vous observez? Les gens, leur manière de s'exprimer, leurs vêtements, la vie quotidienne tout simplement.
J'ai parti toute seule dans l'Inde. Je n'ai jamais voyagé dans la vie. La première fois, j'ai pris l'avion qui partait de Rajasthan à New Delhi. New Delhi, Moscou. Moscou, Paris. Paris, Ajaccio, en Corse. J'y arrive la première fois. Parce que, comme vous êtes jeune aussi, j'avais envie de découvrir le monde, de faire la musique et tout ce que j'ai appris avec ma famille. Et j'ai parti de Rajasthan juste avec un billet d'avion et 50 francs à l'époque que j'avais. Et j'ai commencé mon carrière comme ça et j'ai arrivé la première fois, c'est en Corse. Seule chose que j'avais avec moi, c'est la musique, qu'est-ce que j'ai appris, les tablas, les musiques que j'ai appris avec ma famille. Et quand j'ai arrivé à Corse, pour moi, la France, l'Europe, c'était un autre monde, une autre planète, quelque part pour l'Inde, et c'est vraiment complètement changé. Et comme ça, j'ai arrivé en Corse, à Ajaccio, et je voulais connaître les musiciens et tout. Un jour, les premiers jours que j'arrive en France, et je vois pas mal de bars, les bistrots, des belles femmes, et des gens, c'est sympa, c'est tout.
La langue, les us et coutumes sont alors le premier facteur de décalage. Le second est lié quant à lui à la réception de leur musique. Lorsqu'ils se produisent devant un public oriental, celui-ci rentre plus facilement en transe, du fait des similitudes entre les deux cultures musicales, au niveau des instruments utilisés, de leur sonorité et des rythmes. A l'inverse, même si les auditeurs occidentaux sont curieux et désireux d'écouter de la musique indienne, de découvrir cette culture de l'ailleurs, leur réception laisse entrevoir les divergences entre les cultures. Amrat Hussain relève notamment une appréciation par ce type de public, mais également une distance instaurée presque inévitable par les différences entre la culture musicale occidentale et orientale.
Est-ce que la réception de votre musique par le public est différente selon les cultures ou selon les différents endroits où vous jouez?
Non, pas forcément. Après, il peut y avoir seulement, il y a des lieux que les gens peuvent être un peu plus sentir, rentrer dans le trance un peu plus rapidement que les autres. Par exemple, dans le monde arabe, c'est un peu les ressemblances sonorité ou des rythmiques souvent des tournes. Par exemple, dans le monde arabe, on a quand même un petit peu des rythmes communs, parce que tous les pays où ça se passe aussi par la tradition orale, c'est les gens, ils sont basés sur le ressentiment. Donc dès qu'on fait un groove, tout de suite ils vont être tapés dans les mains, ils sont moins dans la tête. Après, il y a d'autres pays où les gens, ça se passe pas dans cette habitude. Alors du coup, ils vont d'abord réfléchir à côté et prendre le temps d'avoir respiré et après réagir. Donc il n'y a que cette différence-là. Sinon, en fait, à un moment donné, quand les gens ils viennent m'écouter ou me voir, ils viennent parce que ça leur intéresse. Donc ils sont déjà dans une optique d'y avoir, de recevoir quelque chose. Donc, et je crois qu'après, on peut dire, tous les pays où je suis passé, l'expérience était plus ou moins un peu différente. Parce que si c'est partout pareil, il n'y aura pas de goût. Donc de toute façon, on est tous différents. Donc il y a cette différence, mais il n'y a jamais eu un côté négatif. Il y a eu toujours dans le côté positif, parce qu'à un moment donné, quand il y a la qualité, je pense que même un arbre, il est sensible.
Ce décalage culturel a d'ailleurs permis à Haï Barthi de se faire repérer lors de son arrivée à Ajaccio. Effectivement, c'est une journaliste qui l'a accosté en raison de sa tenue traditionnelle indienne qu'il revêtait ce jour-là, le faisant distinguer du reste de la foule. C'est ainsi que, par l'intermédiaire de cette femme, rencontrée au hasard des rues, Raï est parvenu à s'introduire rapidement dans l'univers sonore français. Cette entrevue a permis la promotion du musicien indien par le biais d'un média, ce qui a ainsi contribué à lui offrir des opportunités. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas manqué de se présenter à lui. C'est donc à partir de là qu'ont débuté de nombreuses collaborations avec d'autres musiciens, donnant ensuite lieu au métissage culturel et musical.
J'ai en train de marcher sur cours Napoléon à Ajaccio, des premiers jours, et je croise une femme qui avec un costume indien. À l'époque, j'étais un costume indien. J'étais avec un costume indien, elle a trouvé beau, elle m'a dit « Bonjour, vous êtes beau comme tout, vous êtes comme prince, vous venez de où ?» À l'époque, je ne parlais pas français non plus, j'ai parlé anglais. Et j'ai répondu que je viens de Rajasthan, je suis musicien. Elle a dit, est-ce que vous voudriez bien boire un café avec moi? Elle m'a offert un café. Là, je commence à boire un café avec cette personne. On a parlé, j'ai expliqué que je viens de Rajasthan, j'ai fait de la musique, ta. Et elle était très intéressée. Elle m'a dit, je suis un journaliste de Corse matin. Elle dit, est-ce que vous intéresse? J'aimerais bien faire un article sur vous. Et comme ça, tous les musiciens de Corse, ils vont vous connaître. Et ce serait bien comme ça, vous pouvez faire la musique. Et les gens, ils vont connaître, ils vont découvrir. Je dis, pourquoi pas. Et elle a écrit un gros article marqué « Un indien de la ville ». Et pour moi, quand j'arrivais à Corse, le Corse, c'était le monde pour moi. C'était l'Europe, c'est le Corse pour moi. Et même, j'ai appris le français avec l'accent corse. Et j'ai commencé à jouer avec des musiciens un peu partout en Corse. Et j'étais apprécié par des gens. Et j'étais souvent sur télé, les journaux, les radios. Et j'ai monté plein de formations différentes. J'ai travaillé avec des musiciens corse, Rajasthan, des mélanges. J'ai travaillé aussi avec des musiciens africains. J'ai travaillé avec des musiciens flamenco.
Les quatre frères ont ensuite réalisé des tournées mondiales portées par la volonté de partage et par la fierté de présenter leur culture musicale. Cette appellation renvoie à la médiatisation des musiques du monde et donc des pratiques musicales populaires et folkloriques. Au fur et à mesure de leurs concerts et de leurs voyages, ils se sont construits une certaine notoriété et ont permis la diffusion et la médiatisation de leur patrimoine musical. Et c'est justement grâce à cette renommée que la musique du Rajasthan a fini par se faire connaître mondialement jusqu'à ce qu'elle soit reconnue comme un véritable trésor culturel.
Et je commence à être un peu connu en Corse. petit à petit. Et après, j'ai pensé, pourquoi pas créer mon propre groupe, tout ce que j'ai appris avec ma famille et tout, créer. Et comme ça, je n'ai fondé le groupe d'OAD, les Gitans de Radastan. Et avec mon groupe, j'ai voyagé. Je n'ai fait depuis presque 17 ans, à peu près, centaines de pays. Et plus que 1100 concerts, 1200 concerts dans le monde. Arménie, Italie, Espagne, Roumanie, Singapour, Bahreïn, Dubaï, la Russie, un peu partout. Voilà, centaines de pays, voilà, depuis 17 ans. Et ça fait plaisir aujourd'hui parce que le groupe il est connu vraiment comme ambassadeur de la culture du Rajasthan. Aujourd'hui, on est vraiment reconnu par l'ambassade. Et voilà, récemment, j'ai reçu aussi, j'étais honoré par un prix national de Rajasthan, comme fierté de Rajasthan aussi, l'année dernière. Et voilà, c'est pour que continue toujours, on continue de faire la musique. Et j'ai créé plein de formations différentes comme Doad, les Gitans du Rajasthan. Les Bollywood Masala Orchestra, Spirit of India, les Fanfares du Rajasthan, ils s'appellent Jaipur Maharaja Brass Band, et voilà, on a des chances de continuer cette culture et faire découvrir des gens et rencontrer plein de gens différents.
Leur installation à Tours est également due à cette popularité montante, puisqu'ils ont été amenés à se produire dans le cadre d'un concert caritatif pour le tsunami survenu au sud de l'Inde et au Sri Lanka en 2004.
Et du coup, comment vous êtes arrivé à Tours?
À Tours, c'était un hasard il y a plus que 10 ans. J'étais en tournée en Allemagne. Les mairies de Tours, ils nous demandaient, parce qu'à l'époque, il y avait tsunami de l'Inde. En Inde, il y avait tsunami. Ils ont demandé est-ce que vous pouvez venir nous aider pour soutenir, pour l'Inde, pour récolter l'argent. Comme j'étais en tournée, j'ai dit c'est une bonne cause.
Aujourd'hui, les quatre frères sont ancrés dans la vie musicale tourangelle en faisant des représentations, mais aussi en dispensant des cours d'instruments. Ainsi, ces portraits sonores comptent la trajectoire de vie de ces quatre musiciens, de leur apprentissage familial au Rajasthan jusqu'à leur arrivée à Tours, en passant par leur tournée mondiale qui témoigne de leur volonté de transmission et de partage de leur trésor musical. Les portraits ont été réalisés par les étudiants de musicologie de l'Université de Tours, Martin Barrigot, Clémentine Mété, Juliette Tillard, Marceau Toutevoix, Étienne Recordon, Lucie Pierron, Maxence Hérillard, Marion Chevron, Octave Cros, Maxime Serror, sous la direction de Talia Bachir-Lepuit et Emmeline Lechaud, ethnomusicologue et enseignante à l'Université de Tours. La chronique a été réalisée par mes soins, Lucas Boissier, sous la plume de Manon Pichet-Pernon. Si vous souhaitez réécouter cette émission, vous pouvez directement la retrouver sur le site de Radio Campus Tours.